Ce soir, on voit qu'il faut choisir avec soin les gens qu'on arnaque. Ou ne pas arnaquer les gens. Dans tous les cas, évitez de tenter le coup avec le mystérieux étranger qui vient de débarquer en ville et qui a manifestement des pouvoirs magiques. On verra aussi comment vous offrir une maison uniquement avec votre passion, votre rêve de devenir musicien et un déni absolu de vos chances de réussir. La créature du soir sera généralement plus motivée à vous ruiner qu'à vous aider. Alors si par bonheur il lui venait l'idée de vous donner un coup de main, ayez le bon sens de ne pas vous moquer d'elle. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour lancer la saison 4 en douceur, je me suis dit que le premier épisode méritait bien un petit lifting. J'ai commencé Contes des Soirs Perdus il y a presque 4 ans, quand j'étais encore un pauvre étudiant slash barman mis au chômage par le Covid et forcé à squatter chez mes beaux-parents. Mes années de chef étaient finies depuis 3 ans déjà, et raconter les histoires me manquait. Ça, couplé à une grande quantité de temps libre accordé par le confinement, a résulté dans le podcast que vous écoutez maintenant. Et malgré un matériel et des compétences audio qui se limitaient à un micro-casque et un accès à des tutos YouTube, vous avez été des dizaines de milliers à trouver intéressantes les histoires que je vous racontais. C'est un immense plaisir pour moi de partager les histoires que je découvre avec vous. Et même si le temps libre ne fait que se réduire d'année en année, j'espère pouvoir continuer longtemps à le faire. Je tenais à réenregistrer cet épisode depuis longtemps. C'est le seul pour lequel je le ferai, mais Le joueur de flûte de Hamelin est une de mes histoires préférées, et je voudrais lui faire honneur, maintenant que je sais un tout petit peu mieux ce que je fais. Cela dit, la version originale restera en ligne, histoire de se souvenir du chemin qu'on a parcouru ensemble, pour la poignée d'entre vous, qui sont restés à l'époque où il n'y avait pas d'autres épisodes pour relever le niveau. Sur ce, je vous laisse profiter de l'épisode. Le hurlement de la boulangère retentissait encore lorsque son balai s'abattit. Le son mou du choc fut assourdi par le corps de l'énorme rat qui venait de rencontrer un sort funeste. Sans plus de cérémonie, et avec la farine et la poussière qui jonchaient le sol, l'imposante femme envoya valser la carcasse par la porte, et n'y pensa plus. Jusqu'au lendemain, quand un autre rongeur eut le culot de traverser l'atelier sous ses yeux avant de connaître le même sort que son compagnon. La boulangère n'était pas la seule à être importunée par ses locataires indésirables, et bientôt, ce fut toute la ville de Hamelin qui se trouva envahie de rats. Les premiers jours, on trouva des sacs de grains éventrés, des provisions dévorées et quelques cadavres velus sur les trottoirs devant les maisons. Puis rapidement, la situation dégénéra. On ne savait plus quoi faire des rats qu'on tuait et qui donnaient des airs de moquettes poisseuses aux rues de pierre. Mais le vrai problème, c'était ceux qu'on n'arrivait pas à tuer. Il en arrivait sans cesse de nouveau, toujours plus voraces. Les portes ne les arrêtaient pas, pas plus que les murs, qu'ils soient de bois ou de pierre. Après une semaine, les citoyens de Hamelin commencèrent à connaître la faim. Les rats avaient grignoté leurs provisions jusqu'à la dernière miette. Les rongeurs ne craignaient plus l'homme, qu'ils mordaient profondément si un malheureux se trouva entre eux et leur repas. Même les nouveau-nés n'étaient pas à l'abri dans leur berceau. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une foule s'assemble devant la maison du bourgmestre, chaque jour plus nombreuse. Et chaque jour, celui-ci les rassurait, leur disant que, comme les rats étaient venus, ils partiraient, sans doute. Il tint ce discours jusqu'à ce qu'un soir, il trouve sa femme en train de pleurer. Quand il lui demanda ce qu'il se passait, elle lui montra le petit corps de leur fils qu'elle tenait dans ses bras, le visage rouge de la fièvre qui le brûlait, les jambes poinçonnées de dizaines de petites plaies violettes. Le lendemain, il s'adressa sur un autre ton à ses concitoyens.
« Habitants de Hamelin, ce fléau a trop duré. Nous ne pouvons continuer à vivre dans la peur de la vermine. Dès aujourd'hui, j'offrirai 2 sacs d'or à quiconque pourra nous débarrasser de ces rats. »
Mais la promesse était loin d'être suffisante pour rassurer les habitants, qui rugirent de plus belle.
« Ce n'est pas de l'or qu'on veut.
On a faim.
Qui pourrait nous débarrasser de ces rats, même pour cette somme ?»«
Moi, je pourrais. » Tous se tournèrent vers celui qui avait parlé. Un étranger était nonchalamment installé sur le bord de la fontaine et portait son regard vers le bourgmestre. Des bandes rouges et jaunes s'enroulaient autour de sa jambe droite, vertes et bleues autour de la gauche. Un pourpoint mauve couvrait sa poitrine et un chapeau orange à large bord, d'où partait une longue plume de paon, gardait son visage dans l'ombre. On y devinait seulement, sur le blanc de son pâle visage, la ligne noire d'une fine moustache, et l'éclat sombre d'yeux de la même couleur. « Je peux vous débarrasser des rats. Pas pour rien, cela va de soi. Doublez la somme, et demain, vous vous éveillerez sur la ville que vous connaissiez, avant que cette terrible catastrophe ne s'abatte sur vous. » 4 sacs d'or représentait une belle somme, et bien plus que ce que le bourgmestre possédait, quoi qu'il en soit. Mais que risquait-il ? Ce n'était pas comme si l'étranger pouvait vraiment débarrasser la ville de ce fléau, et ça calmerait au moins la foule pour la journée.
« Très bien, étranger. Si tu peux vraiment faire partir ces rats, alors l'or sera à toi. »
L'homme se leva. Cette nuit, que tous les habitants de la ville soient chez eux avant minuit, leurs portes fermées. Que personne ne sorte, quoi qu'il arrive. Je serai de retour ici à midi pour l'or. » Et sur ces mots, il s'en alla. L'écho des cloches rebondissait sur les pavés des rues désertes. Minuit venait de sonner, mais personne ne dormait dans la ville. Terrés chez eux, leurs portes lourdement barrées, les habitants attendaient de voir comment l'étranger pensait les débarrasser des rats. Quand l'écho du 12e coup s'évanouit dans la brume, l'étranger s'en montra. Il remonta d'un pas léger la rue principale jusqu'à la fontaine. Là, il sortit de son sac les segments d'une longue flûte, qu'il assembla avec précaution, avant de la porter à ses lèvres. Un air lent, envoûtant, coula de la flûte. Il se répandit dans les rues, s'infiltra sous les portes, par les fenêtres, à travers les murs. Comment une si petite flûte pouvait se faire entendre dans toute la ville ? C'était un mystère. Mais bientôt, un son lui répondit. Un infime grattement d'abord, un léger tapotement. Puis le son enfla, déborda des caves, des égouts, de sous les planchers. Et alors, on les vit apparaître. Les rats. Les habitants de Hamelin avaient pris l'habitude de voir les créatures en grand nombre ces dernières semaines, mais n'avaient jamais rien contemplé de pareil. De tous les interstices que comptaient les murs de la cité, s'échappaient d'énormes rongeurs qui filaient vers la fontaine de la Grand Place. Rapidement, un torrent de fourrure brune envahit les rues, noyant les pavés et les trottoirs sous elles. la marée s'assembla autour de l'étranger, qui continuait de jouer, imperturbable. Quand, à perte de vue, on n'aperçut plus que des rats, le joueur de flûte se leva, sans interrompre sa mélodie, et d'un pas lent, repartit de là où il était venu. Il remonta la rue, passa derrière les dernières maisons, et se dirigea vers la rivière. Là-bas, il s'arrêta au bord de l'eau. Mais la musique, elle, continua. Et les rats aussi. Un à un, ils se jetèrent dans les flots, où ils se noyèrent. Le lendemain, le joueur de flûte frappa à la porte du bourgmestre, alors que les cloches de l'église cognaient midi. Mais personne ne répondit. Il frappa plus fort, puis encore plus fort. Il fallut poursuivre le crescendo encore 5 fois avant qu'une fenêtre ne s'ouvre à l'étage.
« Qu'est-ce que c'est? Vous êtes pas bien de tambouriner comme ça? C'est enfoncer ma porte que vous voulez !»«
J'ai rempli ma part du marché. Les rats sont partis. Maintenant, j'aimerais recevoir mon paiement. »
« Ouais, vous l'avez dit, ils sont partis. Qu'est-ce qui me prouve que c'est grâce à vous? Il va me falloir une preuve si vous voulez être payé. »
Mais quand l'étranger posa ses yeux noirs sur le bourgmestre, celui-ci se ravisa et laissa tomber une petite bourse à ses pieds.
« Bon, bon, je veux bien me montrer généreux. Prenez ça et soyez reconnaissant. »
Sans même se pencher pour ramasser la bourse, le joueur de flûte tourna le dos et quitta la ville. Comme la veille, le son des pas de l'étranger fit écho à celui des cloches. Minuit venait de sonner. Comme la veille, il alla jusqu'à la fontaine. Et comme la veille, il assembla sa flûte. Mais cette fois, les notes tombèrent joyeusement sur les pavés et se dispersèrent en dansant. Les portes étaient barrées, comme la veille. Mais les notes franchirent fenêtres et linteaux. Elles montèrent aux étages, dans les chambres et dans les berceaux. Et là, elles y réveillèrent les enfants, qui se levèrent pour danser avec elles. Les plus grands portaient les trop petits, et dans une grande farandole, ils se rassemblèrent sur la place, autour du joueur de flûte qui se mit en chemin. Les enfants le suivirent alors qu'il remontait la rue. Ils le suivirent quand il passa derrière les dernières maisons. Et riant, dansant, ils le suivirent quand il se dirigea vers la rivière. Sur le bord, il s'arrêta, alors que continuaient la musique et les rires. Et un à un, comme les rats avant eux, les enfants de Hamelin se noyèrent.
Ma foi, ces sacs de grains sont encore plus lourds qu'hier. Mais moins lourds que demain, je parie.
L'âne laissa tomber le dernier sac contre le mur du moulin et alla se coucher. Dans sa jeunesse, il gambadait aussi légèrement avec ou sans les sacs. Mais depuis quelques mois, il sentait que le poids des années s'ajoutait trop lourdement à celui du grain. Et il savait que le meunier le voyait aussi. Il ne fallut pas plus de quelques jours après cela pour que la tâche l'ait épuisé avant même qu'il n'ait monté tous les sacs au moulin. L'âne sut alors que sa carrière de bête de somme était terminée et que d'autres perspectives bien moins plaisantes pouvaient maintenant s'ouvrir à lui. Mais comme il avait l'amour de la musique, il décida de partir immédiatement pour la ville de Brême, où il pourrait certainement rejoindre l'orchestre communal. Après à peine quelques kilomètres, une forme attira son attention sur le bord de la route. Un gros chien
dont la fourrure avait plus d'argent que de charbon, tentait péniblement de reprendre son souffle.
« Et qu'est-ce qui t'arrache donc à tel soupir, l'ami ?»«
Hein ? Oh, ce sont ces fichus renards. Mon maître et moi les chassons toutes les semaines. Mais il me semble que chaque fois, ils courent un peu plus vite. »
« Est-ce que ce serait pas toi qui te traîne un peu plus ?»«
Il est possible que ça joue aussi. Pourtant, il faut bien que je les attrape. Mon maître s'est offert 2 nouveaux chiots qu'il a commencé à dresser pour la chasse. Si je rentre bredouille, il risque bien de se dire qu'il gâche les os qu'il me donne à ronger.
Ah, »« Si c'est ça qui t'inquiète, pourquoi tu ne viendrais-tu pas avec moi ?» Je vais à Brême rejoindre l'orchestre communal. Je jouerai du luth, et tu pourrais faire les percussions. »
Par politesse, ou par candeur, le chien ne releva pas que, pour un musicien doté de sabots, le luth n'était probablement pas le choix le mieux indiqué, et les 2 compagnons d'infortune s'en allèrent ensemble. Ils marchaient depuis un moment, quand une ombre fila à travers la route, juste devant eux, suivie par une botte qui lui vola à la tête. Mais comme il n'y avait pas de pied dedans, elle resta ensuite au sol, à côté d'un pauvre chat, un peu sonné par l'impact. Le chien éclata de rire.
C'est bien la première fois que je vois quelqu'un s'être mis à dos un bout de semelle. Qu'est-ce que tu lui as donc fait, le chat ?
3 fois rien. C'est surtout ma maîtresse qui a à se plaindre. La botte est prompte à délivrer le message, cela dit, je te l'accorde. Mais est-ce ma faute à moi si ces fichus souris bondissent en tous sens sans se laisser attraper ? À mon âge, j'avoue que je suis plus heureux avec un morceau de jambon pris dans le garde-manger.
Ben, si c'est ça le problème, accompagne-nous à Brême. En tant que musicien communaux, on mangera sûrement gras tous les jours.
Le chat n'était pas de nature contraignante. Il décida de laisser danser les souris et d'aller tenter sa chance avec l'orchestre de la ville. Finalement, les 3 fugitifs passèrent devant une ferme, lorsqu'un assourdissant cocorico les arrêta.
Hé, t'as de plumes. Il est midi passé, tu n'es pas un peu en retard, là ?
Ah, mais aujourd'hui est un jour spécial, messieurs. Aujourd'hui, je chante à plein poumon jusqu'au prochain lever du soleil.
Ma maîtresse a décidé de me servir à ses invités du dimanche, voyez-vous ? Soi-disant que j'aurais du mal à me réveiller avec le soleil. Je serais inutile à l'écouter.
Eh bien, dans ce cas, viens avec nous. Nous allons à Brême rejoindre l'orchestre communal. Ta voix fera sûrement forte impression, si nous l'accompagnons.
Le coq lança sa tête vers le ciel pour chanter son plaisir, mais le chat, qui s'était faufilé derrière lui, referma son bec d'un coup de patte.
À Brême, l'ami, à Brême, garde donc ta voix.
Brême était encore loin, cependant, et le soleil couchant vit se dessiner les contours noirs d'une forêt sur le rouge du ciel. Les 4 animaux décidèrent d'aller y passer la nuit. L'âne et le chien s'installèrent sur un tapis d'aiguilles, sous un arbre, le chat sur un rocher, et le coq monta jusqu'aux plus hautes branches, où il se sentait en sécurité. De là, il aperçut au loin de la lumière.
« Chers amis, je vois une maison là-bas, plus loin, au cœur de la forêt. Peut-être pourrions-nous y demander l'asile ?»
Le postérieur, déjà meurtri par le sol caillouteux, l'âne ne se le fit pas dire 2 fois, et toute la troupe se mit en route. Quand la maison fut en vue, ils commencèrent à entendre des rires. L'âne s'approcha d'une fenêtre et jeta un œil.
C'est un groupe de voleurs, les amis. Ils sont tous attablés, en train de rire, boire et manger.
Comment sais-tu que ce sont des voleurs ?
C'est évident. Ils sont habillés en noir, ils passent la nuit dans la forêt.
Le chien hocha la tête d'un air docte. C'était en effet l'uniforme des voleurs. Ils discutèrent rapidement d'un plan, puis l'âne alla placer ses sabots avant contre la fenêtre. Le chien monta sur son dos, le chat sauta sur celui du chien, et finalement, le coq vola jusqu'aux épaules du chat. Alors, ensemble, ils donnèrent le concert le plus bref et assourdissant qu'une basse-cour n'ait jamais entendu, et sautèrent d'un bond à travers la vitre. Les voleurs renversèrent la table dans leur panique et fouillèrent sans comprendre ce qui leur était tombé dessus. Les quatre ménestrels, eux, s'attablèrent et mangèrent et burent tout ce que leur estomac put supporter. Puis ils se couchèrent. Le chat près du feu, le chien près de la porte. L'âne se trouva un tas de paille dans la cour et le coq vola jusqu'au toit. Dans la forêt, les voleurs se faisaient passer un savon.
Fuir comme ça, on devrait avoir honte, les gars. Toi là, t'es volontaire. Retourne à la maison voir ce qui nous en a chassé.
Le jeune voleur aurait bien demandé à son chef s'il était certain de savoir ce que volontaire signifiait. Mais, quelque chose de subtil, dans la manière dont il agitait son poing en hurlant, lui fit sentir que ce n'était pas le moment. Quand il entr'ouvrit la porte, il aperçut les yeux brillants du chat, qu'il prit pour des braises, et en approcha sa chandelle pour l'allumer. Le chat apprécia cette intrusion aussi bien qu'on peut l'imaginer, et lança ses griffes au visage du voleur, qui recula vers la porte en hurlant. Avant qu'il n'ait pu sortir, le chien enfonça ses crocs dans son mollet, et une fois dans la cour, l'âne, le voyant passer près de lui, lui décocha un coup de sabot dans les côtes. Alors qu'il se relevait, le coq, réveillé lui aussi par le vacarme, hurla de tous ses poumons, jusqu'à ce que le voleur ait été englouti par les arbres.
C'est une sorcière qui nous a chassés de la maison. Quand je me suis approché de la cheminée, elle a sauté hors du feu et m'a griffé au visage. J'ai voulu sortir, mais un de ses serviteurs se cachait derrière la porte. Il m'a enfoncé un couteau dans la jambe. J'avais presque réussi à m'enfuir, quand un géant m'a envoyé au sol d'un coup de gourdin, pendant que la sorcière hurlait des malédictions. Je m'en suis à peine tiré en vie.
De ce témoignage, parfaitement crédible, les voleurs conclurent que la maison était perdue et n'y remirent plus jamais les pieds. Les quatre musiciens, de leur côté, s'y plurent tellement qu'ils ne la quittèrent pas et n'allèrent jamais à Brême où, au soulagement de ses habitants innocents, ils ne rejoignirent pas l'orchestre. La créature du soir est le cousin ardennais du lutin, le Newton, une créature aussi teigneuse que petite. Oubliez le petit lutin qui gambade dans les bois. Le Newton préfère les cavernes. Peut-être surtout, et on le comprend, parce que c'est là qu'on lui fiche la paix. En effet, si vous voyez un Newton, c'est déjà trop tard pour la première chose à ne pas faire, le voir. Ces petits êtres sont solitaires et ne supportent pas d'être vus par les humains. Mais vous avez encore une chance si vous ne lui adressez pas la parole. Si c'est trop tard pour ça aussi, vous risquez de ne pas passer un très bon moment. Surtout si vous lui avez posé une question, il déteste ça. Mais en tout cas, quoi que vous fassiez, ne vous moquez jamais de lui. Dans les Ardennes belges, on raconte souvent l'histoire d'un paysan qui, voyant l'orage arriver, se précipita pour rentrer son blé avant que la pluie ne détruise la récolte. Courant, suant, il aperçut un Newton qui l'aidait, rentrant un épi à la fois. L'aide parut si dérisoire au paysan qu'il se moqua du Newton, lui disant que si c'était tout ce qu'il pouvait faire, il ferait aussi bien de rentrer dans son trou. Le petit être se tourna alors vers lui, furieux.
Épi par épi, je t'ai enrichi. Épi par épi, je te ruinerai.
Le paysan n'y fit pas attention et réussit à rentrer le gros de sa récolte avant l'orage. Mais le lendemain, la grange était vide. Et les années qui suivirent, ses champs ne donnèrent plus la moindre pousse. Le joueur de flûte de Hamelin et les musiciens de Brême sont des contes collectés par les frères Grimm. Conte des sorts perdus est une création de Lloyd et Biljana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore, Et n'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast.